Passagère. Émilie Gasque.
Salut, voici une heure de bonne musique et de rencontres passagères. Montez sur mes épaules, je vous emmène voir plus loin.
Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées. Sur mes épaules. La peinture et les faux plafonds, notre futur en question.
Oh, vous avez mangé du gâteau. C'est de la galette. Vous m'avez même pas dit.
Vous avez bien fait.
Mama.
Qu'on peut faire avec une guitare. Skinny Love par Bon Iver, 5 ans déjà, pour ce premier single extrait de leur premier album studio For Emma Forever Ago. Oh, que c'est beau l'amour. C'est douloureux aussi, voire ça met carrément le feu aux poudrières. N'est-ce pas, Brigitte ?
Passagère.
Il attend au bout du chemin sous le vent. D'un souvenir brûlant, l'amour défie le temps d'une main légère. Nous sommes de vieux amants dans la poudrière. Il nous flanque avec ses crocs de velours, puis nous fait du crinque quand on appelle au secours.
Oh, mon amour, oh, mon amour, look around you and you will see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never before. But on that clear day, on that clear day, you can see forever and ever, ever.
The Peddlers, soit les colporteurs, qui chantent « On a clear day you can see forever ». Oui, mais partant de brouillard alors, mieux vaut avoir sa copine Lorraine l'horizon. C'est Mademoiselle K qui nous fait faire connaissance.
Sans raison. j'essaye de lire sans mes lunettes, voyez, pour une amie.
Des cartes postales.
Je trouve joli, oui. Oh, je lisais simplement parce que des fois ça donne des idées, hein, pour quand on écrit des cartes. Oui, je viens d'en écrire une pour mon petit-fils qui est en Australie. Oh, bah déjà le féliciter parce qu'il a réussi des examens là-bas, il fait de l'école. Et puis lui souhaiter tout le meilleur pour l'avenir. Voilà, je regarde.
Étonnant, hein, cette chanson, ce morceau en tout cas, avec cette chanson qui apparaît au milieu, après une longue intro et une longue fin au piano. Les Nightworks, I tried so hard. Ceci dit, c'est toujours dur, le travail de nuit. Est-ce que vous êtes prêts pour une souffrance amoureuse d'ampleur sibérienne, signée MGMT ? Les MGMT se sont d'abord appelés Management, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce nom était déjà pris et n'en garde que quelques lettres. MGMT, groupe américain de rock alternatif, fondé par Ben Goldwasser et Andrew Van Wingarden, ils enregistrent en 2007 leur tout premier opus et se retrouvent soudainement propulsés dans le haut des charts avec des hits fantastiques tels que Time to Pretend ou Kids. Impossible que vous ne les ayez pas entendus, leurs clips ont tourné sur toutes les télés, leurs morceaux sur tous les MP3, MGMT a joué dans les plus grands festivals, bref, ils étaient partout. Leur premier album fut si écouté, tant aimé, qu'en 2010, on redoutait la sortie du deuxième. Difficile de ne pas trop attendre d'un groupe considéré comme une usine à tubes. Serait-il cramé par 2 ans d'excès et de gloire instantanée ? Après de nombreuses appréhensions, ce fut une magnifique surprise. Un album aussi passionnant que touchant par sa sincérité. Une œuvre nourrie des affres psychologiques traversées par ses auteurs, après la gloire ultra rapide, autant que par leur volonté, radicale et courageuse, de prouver qu'ils ne sont pas là pour reproduire à l'infini leurs tubes Kids et Time to Pretend. Dans Congratulations, il n'y a pas de véritable single, aucune chanson calibrée pour les ondoyantes fréquences FM, mais des morceaux baroques, à la fois retors et accessibles, avec des petits crochets pop qui surgissent à chaque coin. Les mélodies brillent autant qu'elles changent, et elles changent énormément. L'incroyable Siberian Breaks de 12 minutes devrait à coup sûr vous en convaincre. Voici les MJMT.
Not enough.
J'espère que vous avez aimé le voyage MJMT Siberian Breaks. Et en Sibérie, il y a de la neige, et la neige, elle est blanche, ça fait Blanche-Neige.
Passage.
J'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal saoul, ma moto panthère tremble entre mes genoux. Et toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures. De cuir noir, je suis la femme feu, la femme jaguar au cou cérémonieux. Mes doigts sont autant de seringues mobiles, mes bras des serpents, de longs serpents fragiles. Mes reins sont en fer et mon ventre en satin, mes cuisses dans leurs joues comme des dauphins. Toi, Blanche-Neige, jeune rombière, avec ta bouche vermeille. Toi, Blanche-Neige, jolie ma mère, va faire tes tartes votre groseille. J'aime quelquefois les minets pâles et chauds qui fondent sur moi comme l'aigle sur l'agneau. J'aime les brutaux au large cou cuivré qui gardent un chapeau pour me déboussoler. Quand c'est terminé, ils gisent comme des vieux, un peu disloqués, des lacs bleus sous les yeux. Toi, Blanche-Neige, blanche mignonne, sensuelle comme une momie. Toi, Blanche-Neige, tendre bobonne, va donc moucher ton mari.
Blanche-Neige par Brigitte Fontaine. Et vous avez entendu tous ces oiseaux et tous ces gazouillis, tous ces petits tweets. Nom de Twitter, Ingrid Zerbib. Plombier, nom masculin. Personne qu'on attend des plombes. Bel amour, chanté par Émilie Simon. L'association Stop Suicide s'engage pour la prévention du suicide en Suisse romande. Je suis allée rencontrer Anne-Marie et Charlotte à une période où l'on a beaucoup questionné l'accès aux armes à feu. On en a tous parlé ces dernières semaines. Parce qu'il est bon de se rappeler que les armes à feu tuent avant tout ceux qui mettent fin à leur jour.
La plupart des décès par arme à feu en Suisse, c'est pas des tueries, c'est pas des meurtres sanglants, c'est des suicides. En 2010, sur 241 décès par arme à feu, donc décès, vraiment tout genre de décès confondus, 222, c'était des suicides. Donc c'est vraiment une énorme majorité. Et ça, on parle beaucoup des conséquences liées aux armes à feu, on parle de la violence familiale, ce qui est vrai aussi, hein. On parle de l'implication psychologique que ça peut avoir d'avoir une arme à la maison, et ça c'est aussi entièrement vrai. Mais au niveau vraiment des chiffres de décès, on oublie que en fait, c'est les suicides, c'est ça en fait, la plus grande conséquence des armes à feu.
C'est un sujet extrêmement tabou. Les adultes ont beaucoup de peine, j'ai l'impression, à l'aborder avec les jeunes. Et les jeunes ont aussi peut-être la peine à aller chercher le contact pour parler de quelque chose d'aussi délicat et d'aussi intime aussi en même temps. Moi, je pense que c'est surtout le tabou qui fait que c'est... qui rend les personnes seules, ouais, je pense.
C'est aussi par arme à feu, le suicide des jeunes.
Ouais, chez les garçons. Chez les jeunes garçons, entre 20 et 29 ans, c'est les armes à feu. Ouais. Bah, ce qu'on sait, c'est que dans un moment de crise suicidaire, de crise très très fort comme ça, où il y a vraiment la rationalité qui change un peu, je pense, dans la tête d'une personne, ce qui déclenche un passage à l'acte, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose, mais ça peut aussi être l'accessibilité, la facilité d'accès à une méthode de suicide. Donc ça peut être une arme à feu. Ça peut être aussi la connaissance d'un pont dans le quartier, pas loin, où on sait, où tout le monde dit que c'est le pont d'où tout le monde se suicide. Ça aussi, le fait, aussi les choses qui se disent beaucoup, les réputations d'un pont, ça peut aussi faire beaucoup. Et on sait que si tout à coup, sur ces méthodes-là, qui sont très faciles d'accès, on met une barrière, si on met un obstacle à l'accès à cette méthode-là, il y a une baisse des suicides avec cette méthode-là.
Personne qui va suicider par arme à feu va pas forcément le faire avec une autre méthode si la première n'est pas disponible. Donc l'accessibilité aux armes à feu est très déterminante.
Parce qu'on entend beaucoup l'argument qu'une personne qui veut vraiment se suicider trouvera toujours un moyen de le faire. Dans l'absolu, c'est vrai, sauf qu'en fait, il n'y a personne qui veut vraiment suicider. Et qu'en fait, la raison, elle est là, c'est qu'une crise suicidaire, c'est un moment de détresse où il y a toujours quand même une ambivalence avec la vie. Mais il y a rarement cette espèce de choix absolu où voilà ce que j'ai décidé dans ma tête, maintenant c'est ça. Ça existe aussi, hein, je ne dis pas que ça n'existe jamais. Mais pour les jeunes notamment, il y a une ambivalence qui est toujours présente où on se dit, mais si vraiment ça ne va pas, il faut que je meure. Si vraiment, vraiment, vraiment. Mais on a toujours l'espoir de se dire, mais en fait non, il y a quand même quelque chose qui me raccroche à la vie. Et du coup, c'est là que ça tient, cette histoire de méthode, où sur le moment, au moment où on est dans ce côté-là de l'ambivalence, on se dit, mais là, il n'y a vraiment plus rien qui joue, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Si à ce moment-là, il y a une arme à feu à la maison, où il y a l'énorme boîte de somnifères dans la salle de bain ou autre, si à ce moment-là, il y a ça, là, il peut y avoir un passage à l'acte. S'il n'y a pas, et si la personne est vraiment dans cette situation d'ambivalence, la personne ne va pas faire des pieds et des mains pour sortir, aller chercher son ordonnance, aller à la pharmacie, ou pour aller chercher encore à 10 km un autre pont, ou pour aller s'acheter une arme. Il ne va pas y avoir ce processus-là. Dans un cas comme ça, il n'y aura pas. Il y a des expériences très intéressantes au Québec avec deux ponts, côte à côte, vraiment l'un à côté de l'autre. Un pont qui était connu pour les suicides, où beaucoup de gens se suicidaient depuis ce pont-là. Ils ont protégé ce pont-là, donc en rehaussant les barrières et en mettant des messages de prévention, mais pas l'autre, pas le second pont. Et on a vu que les suicides ont drastiquement diminué depuis ce pont-là, mais n'ont pas augmenté depuis celui d'à côté. C'est pour ça aussi qu'on croit tellement à ça par rapport aux armes à feu. Et on l'a vu dans d'autres pays qui ont mis des lois, qui ont légiféré pour rendre plus difficile l'accès aux armes à feu. On a vu que ça, les taux de suicide avaient diminué. Chaque suicide, d'abord, faut commencer peut-être par dire ça, chaque suicide est singulier. Donc il n'y a pas de réponse unique, jamais. On ne peut pas dire, tiens, cette personne-là, elle s'est suicidée à cause de, par exemple, parce qu'elle a été renvoyée de son travail ou parce que sa femme l'a quittée. C'est trop simple, il n'y a jamais qu'une seule cause. Il peut y avoir un déclencheur, mais il n'y a jamais une cause unique comme ça. Et puis après, si on peut aller dans des interprétations plus larges de pourquoi en Suisse, pourquoi les jeunes ici. Ça interroge toujours beaucoup les observateurs étrangers qui viennent d'autres pays où c'est peut-être plus difficile à vivre aussi, des pays qui ont d'autres problèmes que la Suisse, parce qu'on est quand même dans un pays où les choses vont assez bien quand même. Et ça interroge toujours les gens de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est le suicide qui tue les jeunes en Suisse ? Alors, il ne meurt pas que de suicide, il meurt aussi d'accident de la route. Mais c'est vraiment les deux causes de décès. Et c'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi, qu'est-ce qui peut faire qu'en Suisse, où il y a des bonnes perspectives d'avenir, où on est assuré, où les gens vivent en famille. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on met beaucoup de standards. On met beaucoup d'exigences, la barre est placée très haute parce que justement on est dans un pays où ça va bien. Donc aller mal dans une société comme ça, c'est vite assez mal vu. Et c'est vite un signe de faiblesse. Et je pense que quand on va mal, ce qui arrive à n'importe qui dans le courant d'une vie, peut-être qu'on a du mal à aller vers les autres en disant « tiens, en ce moment ça va pas très bien, ça ira peut-être mieux, mais pour l'instant ça va pas bien, qu'est-ce que je peux faire ?» Et du coup on se victimise très vite, on a l'impression qu'on est le loser du coin, parce que tout à coup on n'arrive pas à trouver du travail, ou parce qu'on n'a pas une vie relationnelle épanouie, parce qu'on n'est plus en contact avec ses parents, parce qu'on réussit pas bien à l'école, etc. Et tout à coup il suffit qu'on cumule 2-3 choses comme ça, on a l'impression qu'on est plus intégré. Et je dis pas que c'est la cause du suicide, mais je pense qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Ouais.
Moi, ce qui me touche le plus, je pense, c'est vraiment de pouvoir vraiment rencontrer des jeunes. Ça veut dire qu'on a un cadre théorique qui est très intéressant, avec des recherches, des études, etc. Mais moi, ce qui me touche, c'est quand vraiment on va sur le terrain, puis on a des actions très concrètes, et on rencontre des jeunes qui vivent ça et qui sont confrontés à ces difficultés. C'est là où je me dis, ah, mais on est utile et on peut faire quelque chose. Et on peut parler avec eux et on établit un contact avec eux. Ouais.
Et il y a un besoin.
Et il y a un besoin, et on répond à un besoin. Oui, ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadée. Ouais.
Je trouve que c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup d'ignorance, et on le voit. C'est pas quelque chose dont on parle à la table du dîner de famille le soir. C'est pas non plus quelque chose dont on parle en classe avec un enseignant. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'idées fausses, beaucoup de préjugés. Et puis, on le voit quand on parle à des jeunes, mais pas seulement. Quand on parle à des adultes, quand on parle à des gens qui sont supposés être très renseignés, très intelligents, et on voit qu'en fait, ils ont pas d'idées. Ce que les gens oublient souvent, c'est que le suicide, c'est d'abord le résultat d'une souffrance humaine extrême. Les gens ont souvent envie d'y mettre des choses très rationnelles et puis de dire que c'est quelque chose d'intime, et puis chacun son choix, et puis chacun sa vie, et voilà. Alors qu'en fait, non, c'est d'abord une histoire de souffrance, et puis moi, on m'enlèvera pas l'idée que la souffrance, on peut, pas toujours, mais que la souffrance, on peut aussi la guérir.
Waouh, les Joy Division dans Passagère sur la première, voilà qui fait très très plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et merci à tous ceux qui m'accompagnent au studio. J'avais Poro et frère et compagnie et partenaire. Voilà. Il est déjà 16h, à demain.